Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un pays et du plomb. Ou l'histoire du réseau Gladio, l'armée secrète italienne créée par l'OTAN pendant la guerre froide. Dans les années 50, l'OTAN met secrètement en place des réseaux Stay Behind, qu'on peut traduire en français par « ceux qui restent derrière ». Ces structures clandestines forment des combattants capables de riposter rapidement à une éventuelle invasion soviétique en Europe de l'Ouest, ou une prise de pouvoir par le communiste. Côté recrutement, aucun scrupule. D'anciens nazis allemands et des fascistes italiens sont enrôlés. D'ailleurs, le Stay Behind italien prend le nom de Gladio, de glaive, symbole choisi par les derniers combattants mussoliniens de la République de Salo. Il se trouve que l'URSS n'envahit pas l'Italie, pas plus qu'un autre pays d'Europe occidentale. Mais face au danger réel ou supposé que représente le Parti communiste italien, deuxième force politique du pays, une stratégie de la tension est déployée avec son lot d'attentats, le but étant de favoriser l'émergence d'un pouvoir autoritaire face au péril communiste. Ainsi, dès 1969, l'Italie plonge dans une décennie noire, les fameuses années de plomb. Un cercle infernal de terrorisme d'extrême gauche et d'extrême droite. Le bilan est terrible, 12 000 attentats, 362 morts, dont un bon nombre de passants, d'innocents. Une blessure nationale, pas totalement cicatrisée aujourd'hui encore. Notre invité, Simonetta Greggio, journaliste et romancière italienne, autrice d'une trilogie romanesque sur l'histoire de l'Italie, Dolce Vita, Les Nouveaux Monstres et Bellissima. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Octobre 1990, le mur de Berlin est tombé depuis près d'un an et l'URSS est sur le point de s'effondrer. En Italie, c'est l'heure du grand déballage post-guerre froide. À la tête du pays, il y a l'inoxydable Giulio Andreotti, l'un des hommes politiques italiens les plus importants du XXe siècle, sinon le plus important. Ce dirigeant démocrate chrétien révèle devant le Parlement l'un des secrets les mieux gardés de la République italienne. Oh, ce n'est pas par plaisir qu'il dévoile les coulisses du pouvoir. Andreotti a d'ailleurs pour devise, si on veut garder une confidence, il ne faut en faire part à personne, pas même à soi-même. Autrement dit, garde ton secret, tu en seras le maître, délivre-le, tu en seras l'esclave. Mais, pressé par l'enquête d'un juge et d'une commission parlementaire, Andreotti, surnommé aussi Belzébuth, le prince des démons, se résout à confesser l'existence d'une armée secrète nommée Gladio. Le 8 novembre 1990, Marc Crépin, correspondant à Rome, explique le retentissement de cette affaire sur France Inter.
Qu'un service secret officiel mette sur pied un autre service parallèle sans aucun contrôle, c'est déjà en soi un scandale. Mais que ce service, né dans les années 60, soit derrière des attentats sauvages, derrière des meurtres politiques et la manipulation du terrorisme, c'est trop. En un mot, ce serait l'opération Gladio. Elle devait normalement permettre de structurer la résistance en cas d'invasion d'une puissance étrangère. En réalité, elle serait à l'origine des campagnes terroristes destinées à intimider les électeurs pour empêcher à tout prix le Parti communiste d'accéder au pouvoir en Italie. Et aujourd'hui sont montrés du doigt ceux qui savaient, dont l'actuel président de la République, Francesco Cossiga.
En révélant l'armée secrète Gladio, devenue obsolète avec la fin de la guerre froide, Andreotti déclenche un scandale et apporte un nouvel éclairage sur l'histoire italienne. On connaissait les Brigades Rouges, les groupuscules néofascistes, la loge pseudo-maçonnique Propaganda Due, ou loge P2, la mafia, le Vatican, la CIA. Voilà désormais la révélation d'un nouvel acteur qui aurait joué un rôle pendant les années de plomb, Gladio. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale, il faut remonter le temps jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Dans toute l'Italie comme à Pise, les derniers jours de la campagne électorale ont remué des foules immenses du nord au sud. Tous les leaders des partis ont jeté dans l'arène le poids de leurs derniers arguments.
1948, année d'élections législatives en Italie. Deux ans plus tôt, les Italiens votaient pour la République. Les partisans de la monarchie ont perdu le référendum. Et en ce mois d'avril 48, c'est un autre duel qui se profile dans les urnes. Démocrate chrétien contre communiste. La guerre froide est lancée, Or, les communistes italiens pourraient arriver aux affaires à Rome. Et ça, pour les Américains obsédés, aveuglés par l'obsession anticommuniste, c'est un péril, un danger immense pour toute l'Europe de l'Ouest. Ils craignent un effet domino. La CIA, toute nouvellement créée, envoie alors des agents partout sur le continent. En Italie, son correspondant se nomme James Jesus Angleton. Il fait ses preuves pendant la libération du pays dans le contre-espionnage. Après-guerre, il poursuit son œuvre et s'engage dans le combat électoral pour favoriser la démocratie chrétienne. Il sollicite ses réseaux, la mafia et le Vatican, notamment allié de poids dans un pays très catholique. Angleton débourse 75 millions de dollars, soit 1 milliard d'aujourd'hui. De quoi influencer l'élection. À Rome, le leader communiste Palmiro Togliatti harangue la foule. Allié à une fraction du Parti Socialiste, il croit en la victoire du PC italien.
C'est à Milan, au centre même de l'action extrémiste et devant un auditoire impressionnant, que le président du Conseil, M. de Gasperi, chef du Parti démocrate chrétien, a voulu clore la campagne électorale en appelant tous les Italiens à barrer la route au communisme. Tous les Italiens et Italiennes se sont efforcés de remplir leurs devoirs. Et M. de Gasperi a doublé son rôle de citoyen de celui de triomphateur. Les élections donnant la victoire à son parti assurent celle de la démocratie et de la paix.
Soulagement, côté américain, l'Italie ne bascule pas du côté des communistes. C'est la démocratie chrétienne qui ramasse la mise. Et c'est le début d'un très long règne politique pour cette formation de centre-droit. L'autre consolation, tout de même, pour les communistes, ils entrent en nombre à l'Assemblée. Mais un autre parti fait son entrée au Parlement, le MSI, pour Mouvement Social Italien. En réalité, c'est un parti néo-fasciste. Car en Italie, il n'y a pas eu de véritable épuration après la guerre. Et les fascistes en poste sous Mussolini retrouvent rapidement leur place. Un élément qui a son importance pour la suite de notre histoire. Quant aux Américains, ils verrouillent un peu plus l'Europe de l'Ouest avec la signature du traité de l'OTAN le 4 avril 1949.
Le pacte atlantique est désormais une réalité. Le pacte atlantique, dont tous les ministres présents ont souligné le caractère défensif, unit 12 nations dont le seul but est d'assurer la paix. Une paix maintenant plus sûre.
En grand frère protecteur, les Américains installent de nombreuses bases américaines en Italie. Le bloc de l'Est et le rideau de fer sont si proches. Il faut protéger ce pays stratégique, frontalier de la Yougoslavie communiste. Alors bien sûr, il y a l'OTAN, officielle pas loin d'être arrogante, dévoilée en grande pompe devant les caméras du monde entier. Mais ça ne suffit pas face à la paranoïa américaine. L'état-major américain et la CIA développent alors une armée secrète. Les Stay Behind, des groupes prêts à combattre derrière les lignes en cas d'invasion soviétique. En 1956, la CIA passe un accord avec le général italien Giovanni De Lorenzo, le responsable des services secrets italiens, pour mettre en place ce réseau Gladio, un nom qui ne cache rien de ses intentions. Le glaive, les gladiateurs, tout cela fleure bon, l'agressivité, la brutalité. Ces gladiateurs sont formés en Sardaigne. On leur fournit des armes, des munitions, des explosifs, une formation et du renseignement. Des caches d'armes sont installées dans tout le pays, dans des cimetières et des chapelles notamment. Quand le glaive rejoint le goupillon, un grand classique, et pas qu'en Italie. Parmi les chefs du réseau Gladio, on retrouve un certain Licio Gelli, futur vénérable maître de la loge maçonnique P2 illégale, auquel nous avions consacré un épisode d'Affaires Sensibles. Gelli, le marionnettiste, a toujours joué sur plusieurs tableaux à la fois, avec les communistes, les fascistes, les démocrates chrétiens et donc les Américains, un prestataire multicarte. Dans le documentaire 1950-1990, le scandale des armées secrètes de l'OTAN, réalisé par Emmanuel Amara en 2011, il expose les profils recrutés dans les rangs Gladio.
Nous pensions qu'il existait un plan insurrectionnel des communistes en Italie.
Abbiamo parlato e preso io una decisione.
Nous en avons discuté Puis nous avons pris la décision ensemble avec Cossiga, qui est devenu président de la République, de former cette armée secrète anticommuniste. Elle était composée au départ d'anciens de la Légion Condor et de la République fasciste de Salò. Ils étaient jeunes, connaissaient les armes et étaient résolument acquis à la cause fasciste.
Gladio devient pour de nombreux fascistes une bonne façon de se recycler dans la nouvelle République italienne. Une république qui vit un miracle économique à la fin des années 50 et au début des années 60, et qui fonde en 57 l'Europe communautaire à Rome, en compagnie de la France, de l'Allemagne et du Benelux, bref, un pays majeur dans le camp occidental. On quitte les campagnes pour les villes, la télé s'invite dans les foyers, les usines tournent à plein, les Fiat 500 prennent autoroute du soleil, et la Dolce Vita sort au cinéma. Les universités se remplissent, le pays est plein de vitalité. Ajoutez-y le charme et la culture, son cinéma fait l'admiration du monde entier, l'Italie brille. Et en 1968, comme en France, c'est l'explosion. Étudiants et ouvriers battent le pavé. Mais, contrairement au mois de mai français, on évoque pour l'Italie un mai rampant qui se prolonge dans le temps. On occupe les usines, les universités, les grèves et manifestations se multiplient. On se plaint des conditions de travail à l'usine, des logements insalubres, des curés qui appellent à voter démocratie chrétienne pendant la messe. Et puis on réclame le droit au divorce et à l'avortement. La démocratie bat son plein, vigoureuse et chaotique, mais bien vivante. C'est dans ce contexte qu'un événement va traumatiser tout le pays. Nous sommes à Milan, le 12 décembre 1969. En cette fin d'après-midi, on sort du travail pour faire ses emplettes dans les artères de la ville. Certains commencent leurs achats de Noël. Piazza Fontana, on se masse dans le hall de la Banque de l'Agriculture pour retirer les espèces. Tout à coup, la foule est soufflée par l'explosion d'une bombe. Une heure plus tard, c'est la capitale, Rome, qui est frappée par des attentats. Les événements font la une du journal de France Inter.
Rome et Milan ont connu en fin d'après-midi une série d'attentats terroristes qui, dans chacune des deux grandes villes, ont fait de nombreuses victimes. La première explosion a eu lieu vers 16h30 à Milan. Une bombe de très forte puissance a explosé dans l'immeuble de la Banque de l'Agriculture, tout près de la chaudière de chauffage centrale. Cet immeuble est situé dans le centre de la ville, Piazza Fontana. Les victimes sont très nombreuses, la banque étant à cette heure-là en pleine activité.
16 morts, 88 blessés, les Italiens ne savent pas encore qu'ils viennent de basculer dans ce qu'on appellera les années de plomb. Très vite, la police lance de vastes coups de filet dans les milieux anarchistes et d'extrême gauche. Et un suspect rapidement arrêté, le cheminot Giuseppe Pinelli. Il meurt pendant sa garde à vue en chutant d'une fenêtre. Accident, suicide, homicide, le mystère demeure. Mais une chose est certaine, il était innocent. Oui, car un homme avoue des années plus tard. L'attentat de la Piazza Fontana n'est pas l'œuvre de l'extrême gauche, mais d'un groupe néofasciste, Ordine Nuovo, Ordre Nouveau. Dans le documentaire Le dossier Berlusconi, réalisé en 2010 par Maria Rosa Bobbi et Michael Buss, le sénateur Sergio Flavini explique la manœuvre de l'extrême droite.
La bombe de la Piazza Fontana devait semer la panique, provoquer le chaos. L'objectif étant de faire intervenir l'armée pour que soit déclaré l'état d'urgence. Voilà quel était le programme de la loge P2. Nous avons compris qu'il s'agissait de terroristes d'extrême droite. Tout le monde le sait maintenant. D'importants documents attestent qu'ils ont été les auteurs et les exécuteurs de cette stratégie de l'attention.
La loge Propaganda 2, le mot est lâché, la P2. Et qui recrute, pour les membres de la loge non reconnue par la franc-maçonnerie, Licio Gelli, le marionnettiste, celui qui recrutait les membres de Gladio. Dans la P2, on retrouve des chefs des services secrets, des ministres, des présidents de banque, magnats de la presse, carabiniers, une engeance qui agit dans l'ombre. Difficile de savoir pourtant et d'affirmer que la stratégie d'attention a été vraiment élaborée par la P2. A-t-elle commandité ou seulement aidé? Il y a aussi les services secrets étrangers, CIA en tête, et puis Gladio. Mais avant tout, en première ligne, les militants néo-fascistes, manipulés ou pas. Ce terrorisme noir est très complexe, illisible. Les intérêts se croisent, se confondent, mais une chose est certaine. Ils ont tous un ennemi commun, le communisme. Nuit du 7 au 8 décembre 1970, des mouvements de troupes militaires ont lieu dans tout le pays. À la manœuvre, on retrouve Valerio Borghese, surnommé le Prince Noir, aristocrate, militaire et fasciste. Vers 1h du matin, le coup d'État est sur la bonne voie. Le ministère de l'Intérieur à Rome est occupé. Borghese reçoit alors un mystérieux coup de téléphone. Après l'appel, il stoppe net les opérations. Le putsch est annulé. Aujourd'hui encore, on ne sait pas les raisons de cette volte-face. Alors plusieurs hypothèses circulent, notamment celle d'une intervention directe des États-Unis. Le prince noir, lui, se réfugie dans l'Espagne de Franco, histoire de ne pas être dépaysé. Le 31 mai 1972, Petenau, région du Frioul, à quelques kilomètres de la frontière yougoslave, caserne des carabiniers. Quand la sonnerie du téléphone retentit, c'est le brigadier Antonio Ferrari qui décroche. Au bout du fil, un anonyme lui annonce. Il y a une Fiat blanche, une Fiat 500, abandonnée dans la ville. C'est sûrement une voiture volée. Et il raccroche. Une patrouille de carabiniers se rend alors à la recherche de cette Fiat 500. Une fois identifiée, il tourne autour, relève la plaque. Et puis, l'un des carabiniers ouvre le coffre qui déclenche le détonateur. Les trois policiers sont soufflés par l'explosion. Ils meurent sur le coup. Un attentat, c'est certain. Mais l'enquête piétine. 20 ans plus tard, un néo-fasciste, encore un, avouera le crime. Août 1974, le train de nuit Italicus Express quitte Florence vers minuit 40. 45 minutes plus tard, il s'engouffre dans le long tunnel de San Benedetto Valisambro, sous les Apennins. Une bombe explose dans la cinquième voiture du train. L'attentat, revendiqué par le groupuscule néofasciste Ordine Nero, Ordre Noir, fait 12 morts et 40 000 blessés. 2 mois plus tôt, une autre bombe fasciste, déjà, avait explosé à Brescia lors d'une manifestation antifasciste, justement. 8 morts, 102 blessés. Dans ce contexte, un cinéaste et intellectuel italien décide de prendre sa plume pour dénoncer cette stratégie de l'attention. Son nom, Pier Paolo Pasolini, l'homme de Théorème et de Salò et des 120 jours de Sodome. Le 14 novembre 1974, il publie une tribune dans le Corriere della Sera.
Io so. Je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et Bologne. Je sais les noms des personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, des colonels grecs et de la mafia, ont lancé une croisade anticommuniste, puis se sont reconstruits une virginité antifasciste. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui se trouvent derrière les tragiques jeunes gens qui se sont offerts comme tueurs et sicaires. Je sais tous ces noms et je sais tous les faits. Attentats contre les institutions et massacres dont ils se sont rendus coupables. Io so, je sais, parce que je suis un intellectuel, un écrivain, qui met en relation des faits, même éloignés, qui rassemble les morceaux désorganisés et fragmentaires de toute une situation politique cohérente, et qui rétablit la logique là où semble régner l'arbitraire, la folie et le mystère.
Le 2 novembre 1975, le corps mutilé de Pier Paolo Pasolini est retrouvé dans une mare de sang et de boue sur la plage d'Ostie, à quelques kilomètres de Rome. Le cinéaste, battu à mort, est méconnaissable. On lui a roulé dessus. L'assassin, un certain Pino Pelozzi, n'a que 17 ans et il passe aux aveux. Le rapport sexuel entre ce jeune prostitué et le cinéaste aurait dégénéré. Version officielle. mais 30 ans après le meurtre. Il clame son innocence et attribue l'assassinat à plusieurs individus à l'accent sicilien, dit-il. Un aveu qui renforce la thèse d'un assassinat politique. Le cinéaste dérangeait. Dans son roman inachevé, Pétrole, publié à titre posthume, il évoque justement les liens troubles entre la démocratie chrétienne, les services secrets et la compagnie pétrolière ENI, dirigée alors par Eugenio Cefis. Pasolini accuse directement cet homme, membre de la loge P2, de l'assassinat d'Enrico Mattei, l'ancien dirigeant de l'ENI. Une autre affaire sensible. Moins de 6 mois après l'assassinat de Pasolini, en juin 1976, les Italiens votent pour les législatives, le scrutin majeur dans cette démocratie parlementaire jusqu'au bout des ongles. La démocratie chrétienne au pouvoir depuis 1948 reste en tête, avec 39% des voix. Mais c'est la forte progression du Parti communiste, avec 7 points de plus qu'en 1972, qui fait l'événement, 34% des suffrages. Dans le documentaire « Les derniers jours d'Aldo Moro », réalisé en 2008 par Emmanuel Amara, le sénateur Sergio Flamini décrypte la situation.
En 1978, l'Italie traversait une période de crise économique et politique profonde. Comme l'expliquait Aldo Moro, les élections de 1976 avaient donné 2 vainqueurs. Le Parti communiste avait fait un véritable bond en avant. La démocratie chrétienne, elle, s'était maintenue, mais devait composer avec les partis minoritaires. Pourtant, aucun gouvernement n'était possible sans un accord entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne.
Le 30 juillet 1976, le démocrate chrétien Giulio Andreotti, l'homme qui révélera Gladio 24 ans plus tard, forme un nouveau gouvernement. Son parti n'a pas la majorité, mais il obtient la confiance du Parlement, grâce à l'abstention du Parti communiste, la deuxième force politique du pays. C'est le premier pas vers le très fameux compromis historique, voulu par 2 grandes personnalités politiques, le démocrate chrétien Aldo Moro et le communiste Enrico Berlinguer. Fine mouche, le leader du PC italien sait qu'il faut s'allier avec l'ennemi juré, la démocratie chrétienne, pour espérer gouverner l'Italie. Et puis surtout, la formation de centre-droite est soutenue par 3 grandes forces dans ce pays. Le patronat, le Vatican et les États-Unis. Rome, 3 mai 77. Des photographies immortalisent Moro et Berlinguer qui se serrent la main. La poignée est franche, les sourires sont sincères. Mais cette main tendue d'Aldo Moro communiste gêne tout le monde, finalement, à commencer par les États-Unis, tout comme l'URSS. Le pape également est contre, et plusieurs dirigeants de la démocratie chrétienne s'y opposent. Quant à l'extrême-gauche, elle considère que le Parti communiste italien s'est embourgeoisé. Alors, de nombreux jeunes communistes, lassés de ce PC italien qu'ils considèrent comme trop intégré au système, créent des groupuscules armés. L'un d'entre eux fait beaucoup parler, les Brigades Rouges. Et si le terrorisme noir, le néofasciste est aveugle, celui de l'extrême-gauche est plus ciblé. Attentats, assassinats et tirs dans les jambes, telle est la spécialité des brigades. Elles s'en prennent aux magistrats, aux policiers, aux industriels et à tous ceux qu'elles considèrent comme des traîtres. Et en cette année 78, les Brigades Rouges préparent un gros coup, un très gros coup. L'enlèvement d'une personnalité politique de premier plan.
Et la benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Svalutation.
siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Valutation, valutation.
Io, amore mio, non capisco perché tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me sulle station. Sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination.
France Inter, affaires sensibles.
Rome, 16 mars 1978. C'est un jour historique. À l'Assemblée, les communistes s'apprêtent à voter la confiance à l'inévitable démocrate chrétien Giulio Andreotti. Le compromis historique, nous y sommes. Ce matin-là, à 9h, Aldo Moro quitte son domicile avec sa voiture, son chauffeur et son garde du corps. Un deuxième véhicule l'escorte, avec trois hommes à son bord. Ce matin-là, ils sont 5 brigadistes, déguisés en uniforme de la compagnie aérienne Alitalia, à attendre Aldo Moro au carrefour de la Via Fadi et de la Via Stressa. Au signal de l'une des membres du groupe, une Fiat coupe la route du cortège. C'est le carambolage et la fusillade. Le chauffeur et les trois gardes du corps sont tués. Moro est capturé. Moins d'une demi-heure plus tard, la nouvelle est sur toutes les radios et les télés. Chaque Italien se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Imaginez un peu. C'est comme si on avait enlevé Jacques Chirac ou un autre de son calibre en plein Paris.
Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita.
Le président Aldo Moro a été enlevé ce matin à Rome. Ses gardes du corps ont été abattus par un commando.
L'Italie est consternée, l'Italie a peur, c'est trop. Il n'est pas 8h30 ce matin lorsque monsieur Aldo Moro, qui vient de sortir de chez lui dans un quartier résidentiel au nord de Rome, tombe dans l'embuscade de carrefour plus loin.
Après l'avoir extrait de sa voiture, les brigadistes placent Aldo Moro dans un véhicule et l'enferment dans une caisse en bois, direction 8 Via Montalcini, dans ce qu'ils appellent la prison du peuple. En vérité, une petite alcôve d'un mètre sur trois aménagée derrière la bibliothèque d'un appartement bourgeois. Et il se trouve que ce prisonnier de marque ne pose aucun problème. Il mange ce qu'on lui donne et ne demande qu'une Bible et un enregistrement de la messe du dimanche. On lui propose de lire Marx. Il refuse, poliment, déjà lu. Et sans surprise, il est condamné à mort par le tribunal des Brigades Rouges. En réalité, les terroristes souhaitent l'échanger contre certains de leurs camarades jugés à Turin au même moment. Ouais, mais la démocratie chrétienne et le parti communiste appliquent une ligne de fermeté, hors de question de négocier avec les brigades. Alors, jour après jour, l'espoir de retrouver Aldo Moro vivant s'amenuise. Les positions sont figées. Moro le sait. Tous les jours, il écrit. Il n'a pas de bureau, ni chaise. Il rédige ses lettres sur son lit de captivité, adossé contre le mur. Et dans l'une de ses lettres, il supplie ses amis et collègues de la démocratie chrétienne. « Si vous n'intervenez pas, une page terrifiante de l'histoire italienne sera écrite. Mon sang retombera sur vous, sur le parti, sur le pays. » Et puis le 9 mai, après 55 jours de captivité,
Moro est mort. ignoble chantage imposé par les terroristes. Ils n'ont pas eu besoin d'un communiqué numéro 10 pour l'annoncer. Un simple coup de téléphone anonyme signalant une voiture piégée peu après l'heure du déjeuner, tout près du siège du Parti communiste. En fait, pas de voiture piégée, mais un homme assis à l'arrière d'une voiture, un homme mort, Aldo Moro.
9 mai 1978, les Brigades Rouges ont mis leur menace à exécution. Aldo Moro est retrouvé dans le coffre d'une 4L. Il porte un costume et 11 balles dans le corps. La voiture est garée Via Caetani, à mi-chemin entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste. Tout un symbole. Car les deux partis, rappelons-le, ont refusé les négociations jusqu'au bout. Des années plus tard, Steve Pichenik, envoyé à l'époque par la CIA pour aider le gouvernement italien dans les négociations avec les Brigades Rouges, se livre à des confidences. Dans le documentaire « Les derniers jours d'Aldo Moro » réalisé en 2008 par Emmanuel Amara, il révèle effectivement que la négociation n'a même pas été envisagée.
L'enlèvement d'Aldo Moro a vraiment été l'un des moments les plus importants du XXe siècle, dans lequel la déstabilisation d'un État et de l'Europe n'ont jamais été aussi réelles. Après cet événement, toutes sortes d'hypothèses ont été émises. J'ai gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. J'ai attendu 30 ans pour révéler cette histoire. Je regrette la mort d'Aldo Moro, je demande pardon à sa famille. Je suis désolé pour lui, on se serait bien entendu, mais nous avons dû instrumentaliser les Brigades Rouges pour le faire tuer.
Mais en exécutant Moro, les Brigades Rouges ont signé leur arrêt de mort. L'opinion publique ne leur pardonnera pas. Giulio Andreotti, président du Conseil, et Francisco Cossiga, ministre de l'Intérieur, ont donc fait le choix de sacrifier Aldo Moro. C'est clair, ils n'ont rien fait pour le sauver. De nombreux enquêteurs, policiers et carabiniers faisaient partie de la loge P2 à l'époque. Et pour certains d'entre eux, sympathisants fascistes, voir Moro mourir les arrangeait. Une fois encore, l'ombre de Gladio plane sur cet assassinat. Quelques jours après, les dirigeants de la démocratie chrétienne se rassemblent lors d'une messe à la mémoire d'Aldo Moro, qu'ils ont pourtant abandonné. Des années plus tard, Cossiga revient sur ces événements dans le documentaire « Les derniers jours d'Aldo Moro ».
Il fallait éviter de négocier. Cela aurait été trop dommageable pour l'État, même si le prix à payer était le sacrifice de Moro. Pendant plus d'un an, je me suis réveillé en pensant que j'avais tué Moro. Non que j'ai eu une forme de remords moral, car j'étais sûr d'avoir fait le bien. Mais j'ai éprouvé une forme de remords plus subtile. Vous savez, lorsqu'on est chrétien et catholique comme moi, le remords moral peut disparaître en demandant pardon à Dieu.
Deux août 1980, Bologna la Rossa, Bologna rouge. Rouge pour ses nombreux bâtiments en briques et pour sa tendance politique. La ville est le fief du Parti communiste. Ce matin-là, il fait très chaud. La gare centrale est bondée, c'est jour de départ en vacances. La salle d'attente des secondes classes est pleine à craquer. Les enfants, tout excités, jouent entre les passagers et les valises. À 10h25, c'est l'explosion. Le bilan est terrible. 85 morts, plus de 200 blessés. L'explosion a été si forte que la gare de Bologne est quasiment détruite. On parle d'abord d'accident, d'une chaudière qui explose. Et puis très vite, le doute n'est plus permis. C'est un attentat le plus terrible des années de plomb. Encore une fois, il faudra des années pour identifier les auteurs de ce massacre. Encore une fois, ce sont des militants néofascistes qui ont posé la bombe. Encore une fois, les commanditaires de l'attentat ne seront jamais retrouvés, condamnés ou même jugés. Mais comme toujours, des ombres planent. La CIA, la loge P2, les services secrets, Gladio. Quand Giulio Andreotti révèle Gladio en octobre 90, la République italienne tremble, mais ne s'écroule pas, ses bases sont très solides. Non, ce sont d'autres affaires qui la feront chuter, presque. Les assassinats des juges Falcone et Borsellino en 92 en Sicile, héros de la lutte anti-mafia, et l'opération Manipulite, main propre, qui en découle, et qui met au jour un vaste système de corruption à travers le pays. La démocratie chrétienne ne survivra pas, le parti est dissous en 1994. Cette année-là marque aussi l'émergence d'un homme politique qui devient député et président du Conseil plusieurs fois. Ambassadeur de la vulgarité politique, fier de sa grossièreté qu'il trimballe en baudoulière partout où il va, il a été membre de la loge P2. Son nom, Silvio Berlusconi.
Ti rendi conto anche tu, da anni non vivi più, perché tu vivi per me, sì, però io non vivo più. Lo sai, la vita sceglie per noi. Possiamo parlarne se vuoi, sì, ma la notte è giunta per noi.
Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'opération Gladio, dont nous allons parler avec notre invité Simonetta Greggio. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Journaliste, romancière italienne, autrice d'une trilogie romanesque sur l'histoire de l'Italie. Elle rend trois mouvements, parce que c'est une trilogie. Dolce Vita, de 1959 à 1979. Les Nouveaux Monstres, de 1978 à 2014. Et Bellissima. Que nous racontez-vous déjà dans cette trilogie, pour ceux qui ne l'ont pas lu? Donc, l'histoire de l'Italie, évidemment, vue par vos yeux, vous qui êtes italienne, c'était quoi votre intention éditoriale?
Alors, avec Dolce Vita, ça a été quelque chose qui est venu du cœur, une sorte de colère. Après tant d'années où j'ai vu mon Italie, que j'adorais, être battue, ne pas avoir la place qu'elle devait avoir. Ça a été une réalité, en réalité, vraiment... Une grande ira. Donc c'est venu de là, je me suis dit que si j'étais devenue écrivaine, c'était aussi pour parler de quelque chose qui me tenait à cœur, pas seulement de mon cœur justement. Et l'Italie était dans mon cœur, même si je vivais en France depuis très longtemps. Dans une langue qui n'était pas la mienne, donc moi je suis italienne, le français était parfait pour ça. Ça me permettait à la fois d'être détaché des choses et à la fois de parler de quelque chose de l'extérieur. Chose que les Italiens, par ailleurs, ne m'ont pas tellement pardonné par la suite. D'où tu parles, camarade?
Et qu'est-ce qui fait que l'Italie n'a pas connu le sort méritoire qu'elle aurait dû connaître, selon vous?
Mais écoutez, vous avez évoqué d'une manière extrêmement, je trouve, efficace cette histoire extrêmement turbulente, extrêmement dure, cruelle. Et vous avez commencé dès le départ, c'est-à-dire que vous avez très bien raconté chronologiquement comment ça s'est passé. Or, chaque fois qu'on ouvre un tiroir en Italie, il y en a trois autres qui s'ouvrent. C'est-à-dire que vous avez raconté tous les faits et derrière, il y a encore d'autres choses.
Ouais.
Donc, pour moi, ça commence, comme vous l'avez dit, vous l'avez évoqué en 56, mais quand même avec la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est arrivé avec le débarquement des Américains directement en Sicile. Ce premier pacte qui a été fait toxique avec la mafia, parce que les Américains ont eu besoin des mafieux locaux pour la logistique.
Ouais.
Donc, Joseph James Angleton, que vous évoquez, était à l'OSS avant d'être donc à la CIA et a joué un rôle incroyable à ce moment-là. Vous avez évoqué Giulio Borghese. Il faut savoir que c'était le commandant de la Decima Mas, qui était quand même la phalange la plus virulente, la plus violente du fascisme, de la fin du fascisme. C'est eux qui ont tenu vraiment le fascisme jusqu'au bout et jusqu'à la mort de Mussolini. Et Valerio Borghese a été exfiltré par Angleton lui-même. C'est-à-dire qu'il est allé à Salò, il lui a donné une uniforme et il l'a ramené à Rome dans sa voiture privée. Vous vous rendez compte à quel point cet homme a été l'âme noire, finalement, de ces années.
Ça veut dire que les Italiens se sont débarrassés de Mussolini, mais pas du fascisme.
Ah, mais absolument pas, parce que Mauro Canali, qui est un historien italien qui a travaillé sur l'œuvre, qui est donc le service secret de Mussolini, a vraiment trouvé les traces des hommes qui ont travaillé pour Mussolini dans le ventennio fasciste dans les années 70.
Ouais.
Ils étaient extrêmement... Enfin, c'était une vraie longévité, quand même.
Alors, quand vous dites que l'Italie n'a pas connu le sort qu'elle aurait dû connaître, est-ce qu'on peut penser que toute cette période des années de plomb a coupé les ailes d'un pays qui était en pleine expansion, à la fois économique, artistique, touristique?
Ah ben encore là, il faut revenir juste un tout petit peu en arrière à la mort de Mattei que vous avez aussi évoqué. Mattei, qui était le président de l'ENI, qui était, quand il l'a pris, c'était ce qu'on a appelé un carrozzone sfasciato. C'était vraiment une espèce de bécane qui marchait pas. Or, il en a fait quelque chose qui fonctionnait. Il s'est érigé contre le cartel des Sept Sœurs, donc le grand monopole du pétrole. Voilà.
Oui.
Et il a essayé de faire de l'Italie un pays autonome en énergie. C'était la chose absolument géniale qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, avec la main de la mafia et d'autres, cet homme a été, il est tombé en plein vol. Et ça, on peut vraiment le dire, puisqu'il est tombé de son petit avion privé.
Ah oui. Alors, ça montre aussi quand même la solidité de l'idée de démocratie en Italie, parce que d'autres démocraties n'auraient peut-être pas survécu à tout ce chaos. Il y a quand même un attachement des Italiens, non seulement à la République parlementaire, qui plus est, et donc à la démocratie.
Alors, je vous trouve à la fois logique et optimiste.
Je pose la question, en fait, j'affirme rien. Si vous me dites oui, ça me rassure, mais je ne suis pas là pour être rassuré, donc allez-y.
Écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, parce que l'histoire n'est pas écrite, puisque les secrets n'ont pas été désécrétés. Encore l'année dernière, Mattarella et Draghi ont fait...
Donc le président et le président du Conseil.
Pardon, j'ai l'impression que tout le monde le sait.
Mais non, il faut toujours le rappeler.
Et on fait une conférence commune pour dire qu'ils allaient désécréter les archives de Gladio. Donc c'était l'année dernière, au mois d'août. On va désécréter les archives. Ah oui, merci.
Mais
on n'en a plus entendu parler. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que, à mon avis, ces archives de Gladio doivent être dans un vieux capannone. Ça doit être des faldoni complètement pourris. Enfin, je sais pas du tout dans quel état on va retrouver les vraies archives.
Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Parce qu'on sait quasiment tout de Gladio. Non.
Non, non. Notamment, lorsque vous avez évoqué tout à l'heure la mort de Moro, on a retrouvé 49 bossoles et donc projectiles provenant des armes de Gladio sur ces lieux. Les hommes des Brigades Rouges n'étaient pas des tireurs d'élite. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à tuer toute l'escorte de Moro? Mais Moro était absolument, complètement... il est sorti de là, il a été prélevé de sa voiture, il n'avait pas une blessure sur lui.
Mais pourquoi les Brigades Rouges auraient-elles endossé la responsabilité?
Parce qu'elles étaient totalement manipulées. Moi, quand j'ai sorti la Dolce Vita il y a quelques années, j'ai eu plusieurs contacts avec des brigadistes en France qui m'ont contacté pour me dire à quel point ils n'étaient pas au courant du fait que certains d'entre eux étaient manipulés par les services.
Simonetta Radio, on reprend cette conversation passionnante dans 3 minutes, après avoir écouté Loni, le goût de l'orge.
Il est une ville sans lumière, quand sur elle vient l'automne, on ne croise plus personne. Au bout de la
C'est Planète Radio. Au centre de tout cela, il y a cette fameuse loge P2 qui est très inquiétante, porteuse de beaucoup de secrets et probablement de beaucoup de coups bas. Alors c'est une loge maçonnique, mais illégale. Elle n'est pas reconnue par la franc-maçonnerie, il faut le dire au passage, histoire de ne pas écorner l'image des francs-maçons. Quel souvenir laisse là, la loge P2?
Alors vous avez parlé de Licio Gelli comme d'un marionnettiste. Mm-hmm. Moi je me suis posé la question dans mes différentes recherches si c'était pas une marionnette. C'est-à-dire qu'on a parlé du grand grande vecchio, du grand vieux. Le grande vecchio aurait pu être quelqu'un qui déjà était derrière Licio Gelli. Licio Gelli n'était que l'attaché de presse en quelque sorte.
Du grand chef.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la levatura morale, il n'avait pas la culture pour être cet homme absolument qui bougeait, qui faisait bouger, qui tenait les rênes. Mmh. Avec un Andreotti qui était quand même le divo, vous vous souvenez de ce film incroyable de Sorrentino. Mmh. Mais c'est la vérité, même si c'est la farce, si c'est comique, comme souvent en Italie, sous la farce et sous le comique, il y a vraiment la tragédie. Et Gelli, à mon sens, d'après ce que j'ai compris, n'était pas vraiment manette de la situation. Qui était le grand évêque? Ça, je ne saurais pas le dire. En revanche, la quête du grand évêque, ça m'intéresse. Et encore une chose, s'il y a une loge P2, c'est qu'il y a une loge P1. Et pourquoi pas une P3, une P4? Mmh. C'est ce que semble dire le livre que Tina Anselmi a écrit, qui était présidente de la commission qui a enquêté sur la loge P2. Et elle pensait qu'après la P2, il y avait la P3, la P4, la P5. Pourquoi pas?
C'est peut-être des choses qu'on apprendra avec...
avec le temps, puisque l'histoire s'écrit avec le temps.
Bien sûr. Alors, parlons de Berlinguer et du Parti communiste italien, qui n'est pas un parti communiste à la française. Il n'est pas stalinien. Hein. Il est un leader de ce qu'on appelle l'eurocommunisme, donc indépendant de Staline, ce que les États-Unis n'ont manifestement pas voulu comprendre.
Alors, ce qui est très étrange et dont on parle peu moins que de l'assassinat de Moro, forcément, mais en 64, Moro était déjà dans la démocratie chrétienne, Andreotti était déjà là. Mmh. Et en 64, il y a eu le général De Lorenzo, dont vous avez parlé au cours de l'émission, qui a fomenté un coup d'État, le piano solo. Or, dans le piano solo, il y avait plusieurs généraux qui étaient au courant de cette histoire. Et c'était pourquoi? Parce que Moro, là encore, 12 ans après 78, voulait faire entrer les socialistes. Donc c'était déjà là. Ils lui en ont voulu pendant 12 ans. Mmh. Ils l'ont vraiment guetté. Et ensuite, ils l'ont eu. Donc je pense que Berlinguer, qui devait être un homme formidable, enfin moi j'étais petite jeune fille à l'époque, et je trouvais que ce type avait une force morale, une éthique, quelque chose qui me plaisait
éthique,
beaucoup.
Oui.
Et vraiment, les hommes politiques de cette époque y croyaient. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous laisser perplexe, mais je pense que beaucoup de ces hommes y croyaient aussi. Vinci Guerra, donc le type qui a mis la bombe à Peteano, qui a tué 3 carabiniers, s'est constitué. Il a été au commissariat pour dire c'est moi. C'est moi, vous y arriverez jamais, mais c'est moi qui ai mis cette bombe. Et l'autre, c'est Mambro Fioravanti, qui ont été en prison pour le massacre de Bologne. Ils ont toujours dit que ce n'était pas eux qui avaient mis les bombes. Et en fait, je pense que ce n'était pas eux, parce qu'ils avaient des valeurs fascistes, qui étaient des vraies valeurs auxquelles ils croyaient. Et même les brigadistes qui étaient pas manipulés, pas comme Moretti, forcément, je pense, par les services secrets, même ces brigadistes y croyaient. Donc, tous ces gens croyaient pouvoir faire une meilleure Italie. Vous vous rendez compte? Il y avait des vraies valeurs qui se...
Parce qu'on a des vraies valeurs avec des partis qui sont comme des partis extrémistes. Ouais. Il y a des attentats, mais ce ne seraient pas ces partis extrémistes qui les auraient fomentés. C'est qui alors?
Eh ben, c'est juste qu'ils ont été manipulés dans leurs valeurs.
D'accord.
Justement, Gladio, c'était pas une œuvre
mentale.
Oui, c'était pas une œuvre de miséricorde. Hein. C'était vraiment, c'était des gens très cyniques qui étaient là derrière.
Ah oui, on le voit. Le rôle de la mafia dans cette histoire.
Oh ben, ils ont été les hommes de main de tout le monde. Et d'abord, il y a énormément d'argent.
Au plus offrant, quoi, en gros.
Exactement. Et d'abord, ça a été quand même des hommes et des quelques femmes qui ont créé une vraie richesse en Italie. Cette richesse est partie où? Dans le Yor. Le Yor, c'était la banque du Vatican.
Ah oui.
On n'a pas parlé du scandale Ambrosoli. Si, certo, on n'a pas parlé de Sindona, d'Ambrosoli, c'est toute une histoire là aussi. Mais encore une fois, c'est les trois tiroirs qui s'ouvrent à chaque fois qu'on ouvre un tiroir.
Quelles traces ont laissé les années de plomb en Italie? Je vous dis ça parce que on a vu l'émotion pour l'affaire Battisti. Une émotion énorme, qui est liée au Brigade Rouge et à cette époque-là. Aujourd'hui encore, quelles sont les blessures qui n'ont pas cicatrisé en Italie?
Écoutez, dernièrement, il y a eu un article dans l'Espresso qui a été signé Gigi Riva, où il mettait un peu les Italiens et les Français face à leur responsabilité réciproque. La France a toujours dit, mais non, mais quand même, c'était la guerre civile en Italie, on a bien fait d'avoir, de protéger, voilà. Et en Italie, on a toujours dit, mais si ça arrivait chez vous, et si c'était l'inverse, je pense que vous ne seriez pas aussi charmant et tolérant. Bon, donc, il y a vraiment un vrai examen de conscience qui doit être fait par les deux pays, notamment la France et l'Italie, parce que la France a quand même accueilli toutes les brigades, les BR des années 80, et je suis bien placée pour le savoir, je suis arrivée en 81, et j'étais à côté du petit lieu, du petit restaurant qui accueillait tous ces gens qui venaient de... Alors j'étais gosse.
Y compris Battisti.
Mais Battisti n'était pas là.
D'accord.
C'était pas du tout la même... Je pense pas que c'était leur copain, du tout.
Enfin, ça veut dire que les Italiens réclament encore justice. Il faut solder les comptes de cette époque-là.
Oui, mais s'ils faisaient eux-mêmes un peu de nettoyage, ça serait pas mal. C'est-à-dire que c'est trop facile de rejeter la faute sur les Français, notamment les cas échéants. Mm-hmm. Et pour les Français, c'est trop facile de dire « Oh là là, c'était les résistants partisans d'une guerre civile ». Non, c'est vraiment... On ne peut pas ramener une complexité à une simplicité. C'est impossible.
Bien sûr. Est-ce que l'accession plusieurs fois de Berlusconi au pouvoir est aussi une conséquence du genre « maintenant il faut de l'ordre » ? Est-ce qu'il a joué là-dessus, Berlusconi ?
Écoutez, il faisait quand même partie de la loge P2, et la loge P2 c'était le piano di rinascita, c'était quoi ? C'était prendre les télés, prendre le maximum de communication pour pouvoir faire un narratif différent. Si vous dites aux gens que tout va bien, ben, il y a des chances qu'ils pensent que tout va bien.
Ouais. Et aujourd'hui, votre sentiment sur... l'avenir proche de votre pays?
Parce qu'on va être un grand pays bientôt, quand tout ça sera levé, tous ces secrets seront sus. Non, je n'en sais rien, j'adore l'Italie, j'adore le fait d'être italienne, j'adore tout en Italie, je pense que si on me demandait ce que je voudrais être italienne absolument et définitivement, mais je pense qu'on est un peu des génies et des monstres.
Ce sera le mot de la fin. Belle synthèse, c'est
Metta. En attendant le prochain.
Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le réseau Gladio, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alix Barrois.